Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents pour cette soirée Les murs ne servent à rien numéro 2. Merci à la mairie de Diolfi de nous accueillir dans cette halle. Donc ce soir, comme vous l'avez compris, le thème de l'accueil des personnes migrantes, c'est ce thème-là qui nous réunit, avec deux films que nous avons souhaité mettre en regard sur cette thématique. La jungle et la République d'Alain Benesti et Bienvenue Mr. Chang de Anne Joukoum et Laetitia Godin-Lepuil. Vous allez me dire que vous les avez vus, mais tout le monde ne les a pas vus, et notamment pas Catherine et Hélène. Le premier traitant du démantèlement de la jungle de Calais et de l'arrivée de 49 migrants dans le Pays Basque, et le second de l'accueil des Boat People laotiens en 1982 en Bretagne. L'occasion de voir que l'accueil des populations se sentant en danger a toujours été un mobile d'action citoyenne. Alors voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Comment on accueille quand on est un citoyen lambda? Comment on accueille quand on est un État? Comment on accueille quand on est un village? Il n'est pas vraiment question ici de faire un débat, mais plutôt d'une discussion ouverte avec vous, entre nous, avec nos maintenant trois intervenantes. Je vais vous les présenter, leur poser quelques questions pour initier un peu les choses. Et puis assez vite, on va ouvrir à vos questions, vos réactions, vos sentiments à l'égard de ce sujet de l'accueil et des migrations. Alors, on a ici Lucie Peterman, qui est journaliste à l'agence France Presse. Qui était au bureau Afrique jusqu'à l'année dernière. Elle a été en poste au Kenya comme correspondante donc de l'AFP à Nairobi, puis au Pakistan pour le journal Libération. Elle a réalisé une série de reportages à la frontière franco-italienne, ainsi qu'un article sur la prise en charge des mineurs isolés à Paris. Voilà, donc on peut dire que tu as pu observer de près l'itinéraire et le sort des personnes migrantes. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Tiens, tu pourras remonter ton micro, ça sera très bien. Et on accueille aussi Hélène Lambert, que vous connaissez peut-être, qui est infirmière, présidente de l'association Espoir, association de Diolfitoise, qui accompagne plusieurs familles migrantes installées à Diolfi. C'est une association qui est née pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine pour accueillir des réfugiés. Et elle est venue avec Catherine, qui fait partie aussi d'Espoir, c'est ça?
Oui, voilà.
Voilà, bienvenue à toutes les deux. Lucie Peterman, après avoir vu le terrain de Cyprès, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces films? Est-ce qu'on y croit encore à l'accueil quand on voit de près des conditions difficiles des migrants aux frontières?
Déjà, les films, ils sont quand même plein d'espoir. Hein, voilà. Après, dans l'accueil des réfugiés Hmong, c'est quand même assez fou, la bienveillance, l'organisation finalement qui s'est mise en place. J'ai trouvé qu'il y avait à la fois toute cette bienveillance et à la fois beaucoup la question de la double identité du pays, mais qui n'est pas son pays, à travers le portrait de Sébastien, qui est assez formidable, je trouve. En quelques scènes, finalement, on saisit bien tous les enjeux. Et après, sur le Pays Basque, il y a quand même une phrase qui m'a surprise au début, quand Anton, l'un des bénévoles, dit « Ce qu'on fait, c'est minuscule ». Mais sauf que ce n'est pas du tout minuscule ce qui a été fait dans ce village.
C'est une histoire d'échelle, en fait.
Mais... Oui, c'est ouais. Ça, mais quand même. Il y a aussi beaucoup à la fois de prise de l'humanité, et en même temps ils comprennent bien la détresse humaine qu'ont traversée toutes ces personnes, les différentes nationalités, les différents enjeux. Donc est-ce qu'on y croit encore? Moi, l'expérience de ce que j'ai vu à Briançon, oui, parce que là-bas c'est quand même assez extraordinaire ce qui s'est passé. Et ce qui continue évidemment à se passer, mais qui devient de plus en plus compliqué, surtout parce qu'il y a une grosse pression sur les bénévoles et sur les habitants du Briançonnais, qui c'est pas seulement les bénévoles engagés dans le refuge, qui sont maintenant extrêmement aidés par des bénévoles de partout en France, qui ont compris qu'il y avait trop de pression, mais c'est aussi beaucoup d'habitants qui accueillent. Beaucoup de mineurs isolés qui sont vus refuser la minorité et qui, du coup, doivent rester un mois, deux mois, six mois, huit mois, un an, le temps que leur recours, en fait, soit examiné. Et à chaque fois, c'est l'habitant chez qui il loge, qui à la fois le loge, le nourrit, le descend à la préfecture à Gap pour les rendez-vous, voilà quoi.
Ça, ce sont des accueils transitoires.
C'est ça.
Du coup.
Et puis après, des fois... s'il y a quelque chose qui se déclenche, beaucoup de bénévoles aident à ce que ces jeunes décrochent, par exemple, des formations dans des lycées professionnels. Des lycées acceptent d'accueillir, mais ça, c'est parce que ces jeunes sont aidés par ces bénévoles. C'est quelque chose qui est formidable, quoi, qui se passe là-bas. Moi, je pense donc que l'accueil, oui. Après, la situation de Paris, c'est quand même très différent.
En quoi ?
Je pense que les nombreux jeunes que j'ai rencontrés là-bas ont beaucoup d'informations sur ce qui se passe quand ils vont devoir traverser le désert. Ils savent le danger de la Méditerranée. Ils savent ce qui peut se passer en Libye, même si, évidemment, le calvaire des kidnappings, des tortures, etc., ça, ils ne peuvent pas l'entendre à ce point, mais ils savent que ça va être dur. Mais par contre, ils n'ont pas trop l'information du parcours du combattant, de soit la reconnaissance de minorité, soit la vie à la rue. Pas d'espoir, pas d'aide. C'est un peu lost in translation quand ils débarquent au port de la Chapelle. Quoi, voilà. Donc il y a beaucoup eu, effectivement, d'ONG qui les ont aidés, etc.
Ça se passe comment, l'accueil des mineurs, justement ?
Soit ils arrivent et ils sont pour à peu près 1 sur 2, on leur dit qu'ils ne sont pas mineurs. Et là, de toute façon, ça veut dire pas de prise en charge, ça veut dire donc la rue, et ça veut dire soit l'aide des bénévoles qui, du coup, vont les mettre dans des hébergements citoyens ou pas. Et donc, c'est les nombreux camps qu'il y a eu depuis un an et demi aux différentes portes de Paris. Ils ont été, là dernièrement, il y en a un nouveau qui avait grandi donc, au niveau du canal Saint-Denis, qui a été évacué il y a 2 jours. Et là, l'hiver est passé, il y a des températures meilleures à Paris, mais ça reste extrêmement, extrêmement précaire. Enfin, c'est quand même très, très, très... C'est quand même très inadmissible qu'on puisse laisser des jeunes hommes, c'est en majorité des jeunes hommes, dans des conditions pareilles. Quoi. Enfin, moi, j'y étais il y a une quinzaine de jours, et franchement, c'est très, très révoltant. Quoi. Donc Paris, à la fois, les habitants de Paris sont plus confrontés, c'est-à-dire qu'ils croisent plus, ils habitent dans les quartiers de Stalingrad, etc. Mais en même temps, on a l'impression qu'il y a comme des œillères, quoi. C'est-à-dire que beaucoup... refuse de voir la réalité, quoi.
Mais surtout, Paris n'est pas une solution.
Non plus, pour ces jeunes. Mais je dis par rapport à l'accueil, quoi. Mmh. Ouais. Donc, la situation là-bas, c'est beaucoup plus tendue.
Et si on revient au Briançonnais, c'est quoi les questions qui se posent si on veut accueillir de manière pérenne ? Après cette première étape transitoire, qu'est-ce qui se passe après ?
Là, les jeunes que moi j'ai pu interviewer pour les reportages, là, la série de reportages qu'on a faite pour l'AFP, qui était aussi d'essayer d'expliquer pourquoi ils ont fui leur pays et d'essayer de parler à des gens en Guinée et en Côte d'Ivoire aussi, c'est que j'ai vu des jeunes qui étaient là depuis 8 mois, 9 mois et qui n'ont pas de réponse sur ce qui va devenir, quoi. Et j'ai un jeune qu'on a fait donc l'interview assez longuement, qui était là depuis 1 an et qui, lui, du coup, est parti en formation aide à la personne dans un autre lycée à Digne. Donc ça va être un hébergement, un lycée qui accepte de l'héberger la semaine, et il va être en famille d'accueil, jamais la même en fait, tous les week-ends, quoi.
Tous les week-ends.
Jusqu'à trouver, je pense, après, un job, mais sa procédure d'asile, parce que maintenant, du coup, il est plus mineur, est toujours en cours, quoi. Donc, en fait, c'est des parcours qui prennent vraiment très, très longtemps.
Est-ce qu'il y en a qui renoncent et qui changent de pays de...
Oui, j'ai rencontré, effectivement, un jeune que j'ai suivi pendant 5 mois, qui était donc mineur, mais pas reconnu mineur, puis finalement reconnu mineur, qui était en fait dans les limbes administratives et qui s'est retrouvé isolé à 1 heure de Paris, en fait, dans une localité où ils étaient plusieurs, dans un hôtel, mais qui n'était pas vraiment un hôtel, qui faisait un peu bar le soir. Enfin, c'était vraiment très bizarre. Un peu laissé par l'aide sociale à l'enfance, du coup, dans son quotidien très isolé, où il était simplement nourri et logé, ce qui est déjà très bien, mais sans cours de français, ce que lui, il a réclamé à peu près tous les jours pendant 5 mois. Mmh. C'est-à-dire de pouvoir avancer, au moins apprendre le français, il est guinéen.
Ne pas perdre son temps, quoi.
Et faire quelque chose, quoi. Mmh. Et il n'y a pas d'encadrement, évidemment, social, il n'y a pas d'encadrement psychologique non plus sur ce qu'il a vécu avant. Et puis, finalement, et beaucoup été aidée par une bénévole, donc Chloé, qui a fait un soutien psychologique quand même, je pense, à ce qu'il a assez sauvé, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui tombent dans la dépression. Il y a eu plusieurs suicides, malheureusement, à Paris, de jeunes comme ça. Et au final, bah, il a décidé, via un ami, de partir en Allemagne, parce qu'on lui avait dit qu'en Allemagne, il y avait des cours de langue. Et il est arrivé en Allemagne, et quelques jours après, il a commencé les cours d'allemand. Ah, et maintenant, ça va.
Ah ouais.
Ça ne veut pas dire que sa situation est pleine de bonnes choses pour les mois qui viennent. On ne sait pas. Voilà.
Hélène Lambert, l'association Espoir s'occupe d'accueillir des familles, en tout cas de faire le relais et d'accueillir des familles de manière plus pérenne, comme on voit dans les films ici. Ça consiste en quoi ?
Oh, ça consiste en beaucoup de choses. Attends, je vais parler un peu plus près. Ben c'est un petit peu différent. Enfin, comment dire ? Je crois que l'accueil des familles, ben c'est, on ne se pose pas trop de questions de savoir pourquoi on doit les accueillir. C'est des personnes qui, enfin, ça a été bien dit dans un film, hein, quand ils viennent, les personnes qui quittent leur pays, qui quittent tout ce qu'ils ont. Sans forcément avoir d'espoir de retour. Enfin, ils ne savent pas, en tout cas, une grande certitude qui affrontent des risques importants et tout ça. S'ils partent de chez eux, ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas des touristes. Hein, ils ne vont pas faire du tourisme à l'étranger comme nous, on a la chance de pouvoir le faire. Voilà, donc ils arrivent quelque part, sans forcément avoir choisi le quelque part. Et ces gens-là, ben, c'est des gens comme nous. Ça pourrait être vous, moi, n'importe qui. Et ben, c'est tout à fait... C'est tout à fait naturel qu'ils puissent avoir de quoi se loger, être au chaud, avoir le minimum de confort matériel et aussi exister, hein, simplement avoir une réalité, connaître des gens, rencontrer, parler, côtoyer du monde, s'occuper, se divertir. Enfin,
comment voilà, passe la première rencontre avec les familles ? Je sais qu'il y en a,
c'est
y en a quatre.
C'est très varié,
filles,
en fait. On a eu plusieurs familles, enfin, depuis que l'association existe. Alors, c'est un peu compliqué, il y a eu plusieurs parcours, il y a eu plusieurs familles qui sont arrivées. Moi, à l'époque, j'étais pas trop impliquée dans l'association. Comment elles sont arrivées ? Chacune par des biais différents, par des connaissances. Y a les familles que l'on a actuellement, il y en a qui ont été... qui nous ont été confiées, on va dire, par l'association ASTI, hein, qui est une association qui est beaucoup plus large et qui a une action au niveau national. Qui a un groupe qui est très actif sur Montélimar, qui accueille pas mal de familles et qui, à un moment, s'est trouvé un peu en difficulté parce qu'ils avaient beaucoup de familles et qu'ils n'arrivaient plus à trouver des équipes pour les accueillir et des hébergements pour les loger. Donc voilà, après, par connaissance, hein, simplement, ils ont su qu'à Dulfi, il y avait eu cette association qui avait accueilli des personnes pendant le conflit d'ex-Yougoslavie et qui s'était mise un petit peu en sommeil, mais qui, voilà, qui avait encore peut-être un peu une graine d'association qui pouvait se remettre à fonctionner. Voilà, donc on a accueilli cette première famille, une autre famille qui est toujours accueillie, ça fait déjà 4 ans peut-être maintenant, je ne sais pas, le temps y passe, je ne sais plus bien. Une autre famille qui est arrivée par le biais de la paroisse catholique, qui est accueillie donc dans des locaux de la paroisse, et puis qui finalement après trouvait que c'était plus opportun qu'ils soient au sein de l'association, donc en élargissant un peu les personnes qui allaient les accueillir et qui pouvaient vivre des choses un petit peu plus larges qu'au sein seulement de la communauté catholique. On accueille au départ une famille syrienne, et alors elle est arrivée par le biais plus légal, on va dire, où la filière qui correspond plutôt aux personnes qui viennent de Syrie, donc, et qui sont reconnues comme étant légitimement à accueillir en France. En France ou dans d'autres pays, mais bon, voilà, il y a une filière qui est plus réglementaire, qui est plus administrativement plus facile, en tout cas. Et voilà, et petit à petit, donc cette famille s'est un petit peu élargie, puisque c'est une famille qui avait aussi de la fratrie qui était aussi restée en, un peu en difficulté en Turquie, ou voilà, qui avait dû fuir aussi la Syrie et qui était en demande d'un point de chute un peu plus pérenne, un peu plus confortable. Voilà, donc cette famille-là, ça grandit. Il y a donc plusieurs membres de la famille qui se sont installés à Dulfi. Et pour les personnes donc, qui viennent de Syrie, je ne dis pas que le parcours est facile et simple, et loin de là, mais administrativement, en tout cas, c'est plus facile. Il y a vraiment des procédures qui sont prévues pour eux. L'accès à la situation régulière, aux papiers, et donc après aux droits sociaux, tout ce qui est allocation, choses comme ça, et le droit au travail, ce qui est quelque chose d'énorme et plus facile. C'est pas toujours très simple, mais c'est plus facile. Et par contre, les familles qui ne sont pas issues de ces régions-là, eh bien, c'est encore plus difficile pour eux, parce qu'ils n'ont, comme me disent joliment les administrations françaises, ils n'ont pas vocation à rester en France, voilà. Voilà, donc là, c'est plus difficile. Il faut qu'ils prouvent qu'ils sont là pour une raison valable, qu'ils sont désirables sur le sol français. Et ça, c'est un sacré parcours du combattant. Et en attendant, eh bien, ils sont... voilà, nous, à Dulfi, on les accueille. Hein. Je crois que matériellement et humainement parlant, ils sont bien accueillis. Mais n'empêche que leur devenir, il est extrêmement incertain. Ils ont des enfants qui grandissent. Et ces enfants, ils ne savent pas, un peu comme disait le jeune Laotien, là, ils ne savent pas trop s'ils sont français, s'ils sont étrangers de leur pays d'origine, dont ils ne sont plus vraiment originaires, qu'ils ont peu ou pas connu du tout. Voilà, ils ne savent pas du tout ce dont l'avenir sera fait. Et pour se construire une vie, un avenir et une existence comme ça, quand on ne sait pas qui on est, où on habite, où on va habiter, qu'est-ce qu'on va faire, eh ben c'est...
Et vos actions au quotidien, c'est comme dans le second film, c'est, vous faites des papiers...
On ne fait pas que ça, on en fait pas mal. Des actions au quotidien, ben déjà, c'est leur trouver un toit. Alors, en ça, on est aussi, il faut dire, à Cadieux-le-Fi, on est beaucoup aidé par la municipalité et le comité, le CCAS, c'est quoi, Comité Comital d'Action Sociale, voilà, qui travaille vraiment, qui a mis déjà au départ un logement d'urgence à disposition pendant quelques mois pour plusieurs familles, qui travaille beaucoup. On est aidé par le CCAS, on est aidé par aussi beaucoup d'autres associations. Là, je représente avec Catherine l'association Espoir, mais il y a les Restos du Cœur, il y a Soutien et Partage, il y a l'Entraide Protestante, enfin, il y a énormément d'associations qui travaillent en commun finalement. Voilà, donc c'est les mettre à l'abri, c'est leur donner des vêtements, du mobilier, de quoi manger, bien entendu, être chauffé, voilà, le confort matériel de base, pas luxueux, mais correct, normal, et pas forcément que des vêtements pourris avec des trous, hein, qu'ils soient habillés un peu correctement, qu'ils mangent normalement. Et puis c'est aussi un réseau d'amitié, c'est des gens qui vont les voir, qui se relaient pour les aider à l'apprentissage de la langue, du français, le soutien scolaire pour les enfants, apprendre à vivre à la française, parce qu'on n'a pas non plus les mêmes modes de vie, mais en respectant aussi leur mode de vie à eux, mais bon, voilà, les aider un petit peu. Et c'est les aider aussi beaucoup dans les démarches administratives, et puis aussi le soutien, d'accompagner aussi un petit peu dans tout ce qui est démarches médicales, parce que souvent quand ils arrivent à se poser quelque part un peu d'une manière un petit peu, alors durable ou en tout cas au moins un certain temps, et qu'ils ont traversé tout ce qu'ils ont traversé, eh bien il y a un petit peu du boulot à faire au niveau médical, affectif, psychologique, tout ça, dentaire, enfin plein de choses comme ça. Et là il y a aussi beaucoup d'accompagnement à faire, voilà. Donc je crois qu'au quotidien c'est vraiment c'est plein de petites choses, et puis effectivement tout ce qui est papier, c'est beaucoup plus lourd, et ça demande des compétences. On a de la chance, mais je crois qu'elle est partie, d'avoir au sein de notre équipe là depuis quelques temps, non elle est là, elle se cache, une de nos bénévoles qui a une expérience professionnelle à travailler, voilà, longtemps dans ce milieu là et qui nous aide beaucoup, parce que c'est vrai que tout ce qui est papier,
c'est assez lourd quand même.
Voilà, c'est lourd.
Il faut être un peu spécialisé. Vous êtes spécialisé au bout d'un moment.
Non, enfin bon, Chantal est beaucoup, nous apporte beaucoup de compétences. Après, ben, enfin, petit à petit, bon, l'Astide nous soutient aussi beaucoup. Ils ont beaucoup, ils sont vraiment plus compétents que nous. Et petit à petit, ben, on apprend aussi. Mmh. Puis on apprend aussi les travers, les choses à ne pas faire, les attentes à la préfecture, aller à la préfecture, faire la queue pendant 2 heures pour entendre dire que ce n'était pas le bon jour et qu'il faut revenir une autre fois. Un de nos accompagnants qui accompagnait une famille à Marseille pour aller au consulat pour voir des papiers, à faire la queue à tel endroit, puis finalement, une fois que la queue est faite, on lui dit que c'est à l'autre bout de Marseille. Quand c'est à l'autre bout de Marseille, on lui dit que c'était finalement bien au premier endroit. Enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est pas complètement anodin. Je pense que c'est aussi fait pour user les nerfs et pour pousser les gens à bout ou alors ou abandonner, ou se désespérer, ou peut-être à repartir ailleurs.
On va peut-être ouvrir des questions.
Je voudrais rajouter 2 choses, parce que je me suis retrouvé dans la situation que vous dites, là je suis là, à la préfecture de Valence, accompagné des personnes, et ballotté d'un bureau à un autre. À l'Asti de Montélimar, je ne sais pas si Pascal Masgoutière est là, ou elle est là, mais tu pourrais peut-être intervenir par rapport aux permanences que fait l'Asti de Montélimar toutes les semaines. Il y a une journée ou deux où il y a des dossiers qui sont traités, et les familles qui demandent un accueil, en général, elles sont expulsées du centre d'accueil de demandeurs d'asile de Montélimar. C'est-à-dire qu'ils sont accueillis dans ce centre. Ce centre, ce n'est qu'une salle avec un lit, sans autorisation de mettre du mobilier à l'intérieur, c'est-à-dire et avec une cuisine commune, avec 4 échauds les uns à côté des autres, avec aucune quasiment intimité, et avec, on n'a pas le droit d'amener, par exemple à Montélimar, avec l'association Montélimar Mosaïque, on a voulu amener une fois du mobilier pour permettre aux gens d'avoir des chaises pour être assis. C'est impossible. Ils sont sur leur lit, et les enfants font leurs devoirs sur le lit des parents et tout ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est le pays de la liberté et les gens n'ont pas le droit d'avoir la liberté d'avoir des meubles pour pouvoir s'asseoir et écrire sur une table.
Comment ?
C'est très petit aussi.
Quoi donc ?
Elle est au logement là.
Oui,
là.
Bonjour. Ça marche ? Ça fonctionne ? Oui, je me présente, donc Pascal Masgoutière. Alors, je suis très nouvelle dans l'association de l'Asti de Montélimar, mais à l'heure actuelle, en fait, j'en suis le secrétaire. Montélimar, c'est un centre d'accueil, c'est-à-dire qu'à la fois, on a ce qu'on appelle un CADA, c'est-à-dire que c'est là où sont logées les personnes qui sont en attente de régularisation, mais éventuellement pourraient être acceptées. Si leur demande, s'ils sont déboutés, à ce moment-là, ils passent dans le bâtiment à côté, qui est le bâtiment du 115. Le 115, c'est l'hébergement d'urgence qui fonctionne pour tout le monde, en fait, dans la réalité. Donc le 115, c'est ce que décrit Gérard au niveau conditions de logement. Le 115, ils sont chargés à l'heure actuelle. Je crois qu'ils ont des problèmes de financement au niveau du gouvernement. Donc, ils sont chargés de diminuer les places d'hébergement. Le travail hivernal est fini. Donc, sur Montélimar, le 115, en général, ces familles-là viennent souvent de Valence. C'est-à-dire que les gens qui sont au CADA de Valence, pour bien leur signifier qu'ils sont plus, qu'ils devraient envisager de repartir, on les met au 115 de Montélimar. Et il semblerait qu'il y ait l'inverse également. Donc les gamins, en plein milieu d'année scolaire, changent d'école, c'est déjà des conditions difficiles. Et le summum, c'est que le 115 donne avis quelquefois 15 jours avant, quelquefois une semaine avant à la famille que c'est terminé, ils sont à telle date, vous serez à la rue.
Donc vous voulez dire qu'en fait les services se renvoient la balle, mais à un tel point qu'ils se renvoient les gens carrément ?
À un moment donné, le 115 dit, nous, on arrête de payer. C'est terminé, donc les gens... Donc, à l'heure actuelle, ils n'ont pas suffisamment de places d'hébergement. Donc, nous, on a une famille en ce moment, ils sont 5 enfants, la mère et la grand-mère. Le 115 les a fait venir dehors, donc ils venaient de Valence, les a fait venir sur Montélimar, ils sont à l'hôtel Les Baladins, parce que quelqu'un connaît, donc dans deux chambres d'hôtel. Ils ne peuvent pas se faire la cuisine, autant vous dire les conditions. Ils sont là depuis décembre, et là, le 115 les a mis à la rue il y a 15 jours. Donc pour l'instant, alors ce n'est pas notre but en tant qu'association, d'héberger, c'est a priori c'est pas ça, mais d'un autre côté, donc on fait appel à dons et les gens sont très très généreux. Donc cette famille là pour l'instant est encore à l'hôtel et bien entendu on cherche des solutions pérennes d'hébergement, enfin pérennes, sachant que ils ont été déboutés de leur demande, que leur prochaine demande ils pourront la faire dans un an, deux ans. Que le mari arrive pas à revenir en France. Bon, déjà, c'est une histoire compliquée.
Il y a beaucoup de situations provisoires, en fait.
Voilà.
Et là, des provisoires qui durent,
en fait.
Et la fin de la trêve hivernale, c'est le cauchemar. C'est-à-dire, on sait en ce moment. C'est-à-dire que là, dans 15 jours, il y a une autre famille qui va être mise à la rue. Le 30 juin, il y en a encore une autre. Enfin, on a au moins 3-4 familles. Mm. On sait que, qu'il va falloir faire quelque chose, quoi.
Et est-ce qu'il y a des questions, monsieur? Il y a un micro qui arrive.
Attendez.
Je vais vous expliquer pourquoi.
Parce qu'on enregistre pour qu'ensuite on puisse faire une émission de radio qui va être diffusée sur Radio Là.
C'est ça, je ne l'ai pas dit.
Okay. Ah, déjà, je vous remercie d'être tous là ce soir. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel dans la France d'aujourd'hui. C'est assez exceptionnel de se soucier des étrangers, des gens qui ne nous ressemblent pas. Donc d'abord, bravo à vous d'être là ce soir si nombreux. Ensuite, il faut aussi se poser la question d'une chose. Pourquoi sommes-nous, d'une certaine manière, dans un huis clos d'une certaine génération, d'une certaine couleur, et pourquoi n'y a-t-il pas autant de jeunes que de gens de notre génération? Pourquoi n'y a-t-il pas autant de minorités dans la salle? Il faut se poser ces questions-là. Il faut aussi, d'une certaine manière, regarder l'histoire de notre pays, l'histoire de nos valeurs en face. Je ne suis pas en train de vous faire la moelle, au contraire, je suis super content de voir autant de monde dans la salle qui se préoccupe de tout ça et puis tous ces problèmes qui sont exposés. Néanmoins, il faut aussi, à mon sens, se dire qu'on exclut de la discussion ceux qui sont concernés. Je suis sur le terrain, ça fait maintenant 30 ans que je travaille sur le terrain, pas seulement sur le terrain des migrants, je travaille sur des problèmes qui sont politiques, je me mets en jeu, je suis aujourd'hui en procès avec des politiques, contre des politiciens, pour des activités que je mène, des activités qui ressemblent à celles-ci, mais qui sont complètement générales. On est dans une dynamique pour refaçonner la fraternité entre les hommes. Seulement, à mon sens, ce qui me chagrine, c'est qu'il n'y a pas de jeunes dans la salle.
C'est quand même.
Alors, je veux bien qu'on fasse un peu d'euphémisme, mais concrètement, est-ce qu'on a des moins de 20 ans ici? Est-ce qu'on n'est pas... Je veux bien une réponse juste après, mais à un moment donné, il faut aussi se poser la question de pourquoi ces jeunes, pourquoi ces personnes issues des minorités, que je ne vois pas dans la salle,
Pourquoi elles ne sont pas là-bas
à la table. Il y a un truc qui me choque, mais foncièrement, c'est pourquoi on parle de moi d'une certaine manière, c'est d'une manière générale, je ne sais pas de moi personnellement, mais pourquoi on parle des migrants alors qu'il n'y a pas de migrants derrière la table? C'est cette question-là, c'est un problème. J'essaye d'être.
Oui, alors
complètement
en fait, la thématique
détaché.
Est quand même sur l'accueil. Oui. Donc on parle d'action de terrain.
Bien
et
entendu.
L'idée, c'était de,
donc,
ce soir
fait,
de recentrer un peu sur comment ça se passe l'accueil chez nous.
Oui, je comprends.
Et les gens qui accueillent de
donc
fait sont des gens qui ont le temps de s'investir, je pense.
Je comprends, mais seulement. Dans ce propos-là, le fait de parler en huis clos, ça ne peut pas forcément permettre de faire progresser la discussion. Ça me rappelle 2005 et 2007, quand on parlait des émeutes de banlieue et qu'à aucun moment on a eu des émeutiers autour de la table.
Mais j'aimerais bien poser la question à Lucie.
Je peux donner une réponse à monsieur.
Oui.
Si vous voulez, lundi, à Montélimar, il y a eu une étape de la marche des solidarités pour les immigrés. Il aurait fallu venir, il y avait 50% de jeunes. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des générations qui ne répondent pas à ce type de réunion, mais qui répondent à un autre type d'action. Il y avait 50% de jeunes, il y avait les femmes en lutte qui sont des femmes en situation précaire et immigrées. Il y avait des amis immigrés qui étaient concernés. Peut-être que la façon de mobiliser, la façon de se mettre en lutte est différente pour certaines générations. Voilà. Et ici, c'était un débat, comment on peut accueillir. Je voudrais compléter le propos de Pascal par rapport aux familles qui sont mises à la rue. À Montélimar, il existe le FLE, c'est-à-dire c'est une association qui s'intitule Faciliter le langage aux enfants. Et on ne parle pas des enfants. Parce que moi, je suis en relation avec les enfants. Et quand les enfants sont d'une famille exclue, c'est un drame terrible. Quand ils arrivent à l'école et qui, un peu euphoriques, disent « Ah, on va déménager ». C'est-à-dire qu'on ne calcule pas l'impact de l'exclusion de ces familles des centres d'accueil. On ne parle pas des enfants, qui sont souvent des enfants en bas âge,
Gérard,
qui ramassent en pleine poire.
Il y a Osama qui veut répondre à monsieur, et je pense qu'on va lui donner le micro.
Justement.
Monsieur, c'est exact. Voilà. D'abord, ce débat ne va durer qu'une heure parce qu'on ne va pas le faire durer trop longtemps. Du coup, on pourra ouvrir, mais dans une certaine mesure. Mais je pense que déjà le fait qu'Osama vous réponde, ce sera déjà.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis un réfugié syrien accueilli à Dieulefi. Je suis là avec vous. Merci.
Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, on a, en tout cas pour Espoir, on a fait part de cette soirée aux personnes que nous accueillons à Dieulefi. On les a invitées, mais en même temps, on n'a pas envie ni de leur imposer de venir témoigner s'ils n'en ont pas envie, parce qu'ils n'ont pas forcément envie à tout bout de champ ou devant une assemblée de parler de leur histoire qui est une histoire forcément douloureuse et que c'est pas facile pour eux aussi de témoigner et qu'on n'a pas non plus envie de... Enfin, je veux dire, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà, ils viennent s'ils veulent, si c'est important pour eux, si ça leur plaît, s'ils le sentent. On ne va pas non plus les mettre en vitrine. Enfin, je veux dire, c'est pas... on n'a pas les personnes que... Bon, alors nous, on a 4 familles maintenant à Dieulefi. C'est un tout petit peu, c'est un peu la goutte d'eau dont on parlait dans le film. Mais on les considère comme des personnes comme vous, moi et n'importe qui. Ils ont le choix de venir s'exprimer ou de rester dans leur intimité comme ils veulent. Et je suis très contente que Sama et Shira soient là ce soir. Et ça me fait beaucoup plaisir. Et ceux qui ne sont pas venus, je respecte qu'ils ne soient pas venus parce qu'ils n'avaient pas envie. Ou peut-être autre chose à faire. Ou voilà, c'est tout.
Lucie, voilà. Est-ce que de ce que tu as vu, est-ce que tu penses, toi, que les migrants, les personnes en demande d'asile, les personnes qui sont sur la route sont exclues, qu'il n'y a pas de dialogue
Non, par exemple, à Briançon, ça c'est clairement... Il y a un certain nombre de migrants qui se sont engagés dans la gestion du refuge solidaire, qui est donc le seul centre d'accueil qui existe dans toute cette région pour accueillir. Depuis juillet 2017, il y a eu plus de 3600 migrants qui sont passés par le refuge solidaire, sachant que les locaux sont mis à disposition par la communauté de communes, donc chauffés pendant l'hiver, mais tout ce qui est nourriture, fourniture d'hygiène, nettoyer voilà, les draps, faire les lessives, etc. C'est absolument géré que par des bénévoles. Donc c'est quand même assez fou. Et il y a parmi eux un certain nombre de migrants. Moi, j'ai rencontré un jeune Camerounais, il y avait aussi un jeune Guinéen, à Paris aussi, qui s'engagent, qui, de toute façon, savent que leur parcours va être long, qui sont des gens souvent, du coup, un peu plus éduqués, voilà, qui n'étaient peut-être pas dans le secteur informel, en tout cas en Afrique, qui avaient fait des études d'ingénieurs, qui ont dû fuir. Voilà, j'ai rencontré un médecin, un gynécologue guinéen, qui a eu des soucis à la suite de l'épidémie d'Ebola, où il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup d'accusations, et qui a dû fuir sa propre famille, en fait, et qui, du coup, a aidé dans l'accueil d'urgence médicale des jeunes qui arrivaient avec des gros problèmes d'engelures, voilà, de brûlures à cause de la neige. Et donc, ça, c'est très, très précieux pour les bénévoles du Briançonnais qui, parfois... ne connaissent pas les pays d'Afrique d'où viennent ces migrants, connaissent pas forcément l'histoire de ces pays, connaissent pas non plus l'histoire actuelle, voilà, et toutes les difficultés qu'il y a dans ces pays-là. Et puis, c'est des intermédiaires extrêmement précieux, quoi. Eux, ils sont impliqués, ça c'est sûr.
C'est vrai que la question.
Mais ils ont aussi à gérer, leur vie, leur parcours.
Déjà du chemin. C'est-à-dire que devenir vite bénévole déjà au service des autres, il faut quand même être assez disponible et assez
généreux, quoi. Voilà.
Bien dans sa tête.
Et puis assez posé. Trop... Oui, bien sûr.
C'est vrai que cette question de la parole, on entendait cet après-midi des émissions de radio qu'on a diffusées ici, qui sont enregistrées par une association qui s'appelle Microcamp Radio et qui va dans les camps en Géorgie, en Irak, mais aussi à Calais, et qui initie les personnes qui le souhaitent à l'outil radio. Donc vous avez vu, c'est relativement simple. Et après, les personnes prennent en charge elles-mêmes leur émission de radio. Et on se rend compte qu'effectivement, ce besoin de parole, il est vraiment important et pas toujours une vraie place, en tout cas dans l'organisation des camps de réfugiés, quoi. Et ici, bien sûr, on pourrait poser aussi cette question. On n'en discute pas tous les jours. Je suis bien d'accord. Madame ? Un micro, sinon rien.
Merci. Je voudrais simplement savoir comment peut-on vous aider ou plutôt se révolter contre les personnes qui exclut, que ce soit le 115 à Montélimar, que ce soit à Valence, ne peut-on pas faire quelque chose? La révolution, ça me paraît difficile à notre époque, mais il n'y a pas un moyen plus...
Ne jetez pas les chaises en l'air parce qu'on va avoir des problèmes, hein, par contre, hein, je vous le dis tout de suite.
Non, mais que peut-on faire auprès de ces services pour leur demander, enfin, les rendre plus performant.
Alors ça, c'est la grande question. Comment on fait par rapport à la place de l'État et les organes d'État?
Il faut taper à la porte de Monsieur Macron, c'est ça la solution?
Je ne sais pas.
Oui, mais c'est pas...
Après, je ne sais pas, vous avez un avis?
Oui, mais ce n'est pas lui en particulier, ni le Premier ministre.
Il y a plein de raisons.
Est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe dans les communes, justement?
Moi, je pense que c'est important. On ne peut rien faire... des grandes choses, grandes, mais on peut rejoindre des associations pour apporter sa part et ne pas être seul.
Moi, j'ai appris dans ma jeunesse que le mot « impossible » n'était pas français. Mm-hmm. Alors, il y a sûrement une solution.
Après, il y a des grands mouvements, des associations. Il y a la STI, il y a la CIMAD, il y a plein d'associations qui ont pignon sur rue et qui se battent pour ça. Après, tout à l'heure a été citée la marche des migrants qui a passé à Montélimar lundi, qui monte. Voilà, c'est des gens comme ça.
Ce qu'ils font, c'est justement pour porter ce problème et pour le montrer, pour le, voilà, que ça passe avec la, à travers la presse, que les choses évoluent et que ça soit porté à connaissance des politiques. Après, bah, c'est un vaste sujet. Hein. Après, on a un bulletin de vote dont on fait ce qu'on peut quand on nous demande notre avis, mais qu'on n'en fait pas grand-chose après. Enfin, c'est très compliqué après. Mais
non,
c'est
mais
vrai
moi,
que...
je demande simplement à notre niveau.
Eh ben, ici, à notre niveau,
il faut aller voir les associations.
Il faut aller voir les associations, madame. Oui. Il n'y a que ça à faire.
Bah, je fais partie de votre association.
Oui, voilà.
Ah bon, bah,
oui.
Voilà.
Bah, oui, oui. Voilà, bah, après, il y a des pétitions qui passent sur Internet, il y a des marches de solidarité.
Parce que
il y a
moi,
des...
je veux bien aller parler à la radio tous les jours et pleurer.
Vous venez, c'est une radio participative.
Moi, je peux
vous pouvez venir faire une émission, vous aussi, monsieur. Je pense que...
Ah, moi, je suis partante pour parler très fort et très haut et faire un sitting devant la radio, devant ce que vous voulez.
Devant la radio, ça ne va pas produire grand effet, à mon avis. Mais...
Dedans, c'est mieux.
Il y a Chloé qui veut répondre à la question.
Moi, je pense que sur cette question-là, effectivement, on se sent un peu bête et on est là, ah, mais on ne peut rien faire. Mais en fait, il y a plein d'associations, effectivement. L'ASTI, la CIMAD. La CIMAD, c'est une association qui se concentre vraiment sur les questions légales, qui est une excellente association, dont j'ai appris d'ailleurs qu'elle est née pendant 39-45, chose que je ne savais pas. Et l'ASTI Montélimar, ils sont très actifs, donc ça, c'est tout à fait une possibilité, d'une part, de leur donner des sous. On dit toujours, ah oui, donner des sous, mais quand on s'occupe d'une asso, on voit à quoi ça sert de donner des sous. Des procès, ça coûte cher, tout coûte cher. Signer les pétitions d'Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, toutes ces associations qui soutiennent aussi les bénévoles qui sont eux-mêmes criminalisés maintenant. Parce que maintenant, on laisse des identitaires faire des manifs au milieu des montagnes, mais après, on va criminaliser les personnes qui accueillent les migrants. Donc, c'est très important de comprendre que ces gens-là, ils ont besoin largement du soutien populaire, de façon à ce que l'État comprenne qu'on n'est pas complètement bené non plus, et que nous, on sera là pour défendre les gens qui prennent leurs responsabilités en main. Donc toutes ces associations-là, c'est possible de les soutenir. Il y a énormément de pétitions à signer. Là, il y a les trois de Briançon, par exemple, ils vont passer en procès le 30 mai. Il y a des bus qui passent par ici, par Romans, par Valence, qui vont descendre à la manif pour les soutenir. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire, petites ou grandes choses. Mais ASTI, CIMAD, Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, c'est déjà bien.
Et puis, Chloé, des collectifs locaux aussi, qui sont des collectifs souvent plus informels. Et d'ailleurs, j'invite ici Christiane Sigel à prendre la parole si vous le souhaitez. Parce que, attends, j'aimerais bien diriger mon débat, si c'est possible, en fait. Oui, Gérard, elle a un papier, ça a été préparé, Gérard. Donc Christiane qui s'occupe d'un collectif qui est né à Bordeaux pour accueillir une famille ou qui s'occupe partiellement, mais entre autres. Bien dans le micro.
C'est bon ? J'ai un rhume terrible, je suis désolée, mais je vais essayer de me faire comprendre. Donc je viens de Bordeaux, et à Bordeaux s'est créé un collectif, le collectif du Roubion. C'était une initiative de la commune, de certains membres de l'équipe municipale, d'accueillir une famille de réfugiés à Bordeaux. Dans un premier temps, ils préféraient avoir une famille de réfugiés donc, qui avait ses papiers. Et depuis mars dernier, ce collectif s'est créé et il y a ce jour 35 membres qui se réunissent régulièrement et qui ont pris contact avec le diaconat, parce que c'est le diaconat qui est l'organe, vous en avez parlé, madame, je crois, qui...
oriente
voilà,
les familles qui sont en demande
qui oriente
de
les familles de Drôme-Ardèche et qui... Comment dire ?
Respirer.
Oui, qui fait le lien... Bien. Voilà, qui fait le lien entre ces familles et les communes qui les accueillent. Donc la mairie a mis à disposition une maison de village qui appartient au CCAS, donc le Centre d'action communale de Bordeaux. Cette famille, évidemment, n'est pas encore arrivée. On l'attend normalement pour le mois de septembre. Ce sera une famille avec des enfants. Et ce que j'ai appris, c'est donc une famille qui va venir directement d'un camp, soit de Jordanie, soit de Turquie, soit du Liban. Cette maison, eh bien, à la dernière réunion de ce collectif, Vraiment, l'organisation se fait progressivement. Il y a eu des commissions qui se sont mises en place avec des référents pour venir en aide donc à cette famille si c'est nécessaire. Il y a une commission santé, une commission école, une commission apprentissage du français, une commission de membres bénévoles qui s'engagent à assurer les déplacements de cette famille, et puis une commission qui fera la coordination générale. Mais évidemment, les Bourdelois ont souhaité avoir les conseils d'autres collectifs, dont l'association Espoir, et ils sont allés... où est-ce qu'il est mon truc ? Ils sont allés dans d'autres communes. Ah ben voilà, ils ont pris contact avec les collectifs de Nyons, de Montboucher et bien sûr de Dieulfi. Et donc, surtout, ce collectif voulait agir en grande transparence. Donc, dans le bulletin municipal que j'ai le plaisir de rédiger, eh bien, régulièrement, on met des articles pour informer la population de ce qui se passe. Parce qu'évidemment, comme on l'a vu dans ces films, il y a certaines personnes qui sont craintives. Mais il y a quand même une tradition de terre d'accueil. Et ça, ça ressort quand même, moi qui suis une parachutée dans le coin, je l'entends quand même beaucoup. On est une terre d'accueil, on en a accueilli d'autres, donc on va continuer. Ça, je l'entends aussi à Dieulfi, ça c'est certain. Et donc, il y aura une réunion d'information prévue le 20 juin à 19h à la salle des fêtes, à laquelle vous êtes évidemment tous bienvenus.
Et voilà. Il y a nombre d'autres collectifs très locaux dans lesquels, moi, personnellement, je pense qu'on peut aller s'investir. C'est là, justement, c'est plus proche, notamment l'association Le Chafal à Pont-de-Barré, je ne sais pas si vous connaissez, qui n'accueille pas à proprement parler, mais facilite la vie des personnes qui sont en transition, en migration et qui passent par là. Donc, eux aussi, ils ont besoin de bénévoles. Enfin, en fait, c'est tout un maillage, j'ai l'impression, au niveau local, cette histoire d'accueil qui est quand même très fort, mais qu'on connaît peu. On entend très peu parler quand même du fait qu'à Dieulfi, on accueille 4 familles pour un village de 3000 habitants. Moi, je trouve ça quand même assez remarquable. Bordeaux...
Mais Dieulfi en a accueilli tellement plus pendant la guerre.
Oui, mais ça, on en entend beaucoup parler.
Elle avait doublé la population, pratiquement. Enfin, moi, j'étais pas de Dieulfi, de toute façon, j'étais pas née, mais j'ai pas de famille ici à cette époque, mais quand même, voilà. Mais peut-être juste un mot pour dire, on voudrait faire des grandes choses. Moi, je pense que, faire des grandes choses, ça serait super, mais je pense qu'une petite chose, elle devient grande si elle est multipliée par beaucoup. Hein, voilà. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui font chacun une petite chose, ça finit par faire une grande chose. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je crois que ça a été dit dans un des films, là, la petite goutte d'eau de ce village, c'était en Pays Basque, là, qui accueillait
Saint-Étienne de Baïgorry,
quelques personnes. Mais si chaque commune de France accueillait une famille, il n'y aurait plus de problème. Le problème, le mot n'existe même pas, quoi. Il y aurait juste des personnes qui seraient... qui seraient dans des communes. Enfin, comme beaucoup d'entre nous ont fait quand leurs parents, grands-parents ou arrière-grands-parents sont venus d'Espagne, d'Italie, du Portugal, du Maghreb, de Tchécoslovaquie ou de plein d'endroits. Enfin, voilà, les gens, ils arrivent, ils bougent, ils s'installent quelque part et ils sont intégrés. Et puis après, ils appartiennent à la population. Si chaque commune de France accueillait une famille...
Voilà. Moi, j'ai l'impression que l'accueil, il est presque plus facile dans les petites communes que dans les villes.
Peut-être. Moi, je pense qu'on pourrait... Juste, je voudrais demander...
À Catherine, allez-y.
Voilà. Parce que tout à l'heure a été évoqué le problème des enfants. Et Catherine est quand même bien placée pour nous en parler, puisqu'elle est intervenante, enfin enseignante justement en charge des enfants qui arrivent chez nous et qui ne parlent pas le français ou pas bien. Et elle peut nous parler un petit peu de ce parcours-là, ce qui est quand
même... De français langue étrangère.
Oui, j'enseigne le français langue étrangère dans un collège à Montélimar. Et j'interviens aussi un tout petit peu au collège de Dieulfi. Voilà, donc... Je suis au contact de beaucoup de familles qui viennent de partout, et aussi au contact des mineurs isolés. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est très... On a beaucoup parlé de l'aide qu'on apporte, mais on reçoit énormément aussi à travers tout le contact de toutes ces cultures. Voilà. Et ce que je constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aider. Tout à l'heure, il a été question de l'association FLE, Faciliter le langage aux enfants, donc, qui a été fondée par une collègue du premier degré.
Françoise Estivale.
Oui, Françoise Estivale. Et donc, il y a énormément, même sur Montélimar, qui est quand même plus grand que Dieulfi, c'est une association c'est un peu tard, je ne trouve plus mes mots. Mais bon, qui réunit beaucoup de bénévoles qui font de l'aide aux devoirs.
Il y a 70 bénévoles, 70, voilà. 80 bénévoles dans cette association.
Voilà, 70 bénévoles. Donc après, moi, je m'occupe des enfants dans un collège, donc c'est au second degré. Voilà. Et il y a aussi des personnes qui s'occupent des adolescents.
Et peut-être ce qu'on peut remarquer aussi, c'est enfin, moi, il me semble, en tout cas dans les enfants que l'on accueille ici, pas pour tous, bien sûr, parce que les enfants des familles migrantes sont comme les enfants des autres familles. Hein. Il y a des enfants qui sont plus assidus, plus doués, plus intéressés par l'apprentissage. Mais moi, je suis quand même épatée de voir la vitesse à laquelle ils arrivent à intégrer une langue qui est très différente de la leur, à l'écrit, à l'oral. Ils arrivent à capter les habitudes et les modes de vie de leurs camarades de classe. Et je veux dire chapeau quoi, quand arriver à intégrer comme ça la dernière famille syrienne donc, qui est arrivée il n'y a pas longtemps, ils étaient en Syrie, ils parlaient donc arabe, ils ont été en Turquie quelques années, ils ont appris le turc, ils ont aussi appris l'anglais parce que quand même ça peut servir, et maintenant ils arrivent et ils parlent français, enfin voilà, bon c'est quand même moi je suis bien capable d'en faire le quart de ça, voilà, donc non mais c'est aussi il y a une volonté et puis une c'est aussi quelque chose de l'ordre, je suppose, de la survie aussi. Ça développe des moyens parce qu'on est vraiment obligé.
Excusez-moi, mais il y a aussi des enfants qui portent des pathologies psychologiques.
Aussi.
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 C'est aussi une réalité. À l'école de Grangeneuve de Montélimar, qui est l'école qui accueille les enfants du CADA et du 115, il y a des enfants qui ont aussi des gros problèmes, aussi. Même s'il y a des enfants que vous décrivez qui parlent 3-4 langues à 6 ans. Quoi.
Peut-être pas 6 ans.
Moi, j'en ai un qui parle 3 langues à 6 ans. Quoi.
Mais on a aussi, c'est pour ça que je disais, c'est comme dans toutes les familles, on a aussi des familles où c'est moins facile, où les enfants trouvent des difficultés scolaires, et on a aussi la problématique de l'orientation et de leur devenir aussi. C'est pas simple.
On va prendre une presque dernière intervention, parce qu'on ne va pas trop déborder, je pense. Et puis, il y a quelques bâillements, là, je vois. Donc, on s'inquiète un peu pour vous.
Je voudrais juste poser une question au niveau du soutien scolaire des enfants. Est-ce que dans les associations qui... Moi, je travaille avec l'association de Toulignan, donc, qui accueille une famille syrienne. Et dans le soutien scolaire, on est quand même... et le franchissement de la barrière de la langue... On est quand même tous très démunis, parce qu'être bénévole, c'est bien, mais je trouve que ça ne suffit pas. Et comme il y a une enseignante de langue FLE, je voudrais savoir s'il y a une mise en réseau possible au niveau des associations des villages proches, peut-être pour au moins donner des axes de travail et de méthode pour l'acquisition du français face à... Parce que c'est pas facile. Moi, ça fait un an que je travaille avec eux. D'accord, ils parlent français, mais ils ont les enfants, ils ont quand même du mal à des acquis de grammaire, de syntaxe, etc. Et au niveau des méthodes, c'est un peu compliqué pour nous, parce que la bonne volonté ne suffit pas.
Alors, comment, Catherine, mettons en commun un peu tous ces outils?
En fait, je pense que quand on aide au devoir, il faut beaucoup oraliser ce qui a pu être écrit. Voilà. Après, c'est un travail de très longue haleine. Et puis, ça dépend aussi des enfants.
Moi, j'ai des enfants, j'ai des ados de 16 ans qui ne savent pas lire du tout, qui n'ont pas pu aller à l'école. Donc, ça dépend vraiment de chaque enfant, quoi.
Mais il n'empêche qu'il y a quand même des méthodes. Après, nous, sur les différentes familles que nous accueillons, il y a un certain nombre de bénévoles qui interviennent auprès de chaque famille et chaque enfant. Ils ont chacun une personne qui s'occupe d'eux très régulièrement. C'est peut-être pas forcément tous les jours pour chaque enfant, mais c'est quand même assez fréquent, y compris un peu pendant les vacances. Et on a quelques personnes un peu plus référentes, donc Catherine, puis une autre personne qui ont des compétences professionnelles, on va dire, là-dedans, et qui chapeautent un petit peu les différentes personnes bénévoles et qui peuvent leur donner des tuyaux, des méthodes, des choses comme ça. Donc c'est là, effectivement, où peut-être, si à Tolignan, vous n'avez pas ces possibilités-là, pourquoi pas peut-être prendre contact avec nous et on peut peut-être vous demander aux personnes qui sont un peu plus compétentes de vous donner des tuyaux, c'est possible. Je pense qu'on peut essayer de se soutenir aussi entre les différentes associations. Tolignan et Diolfi, c'est pas si loin.
On peut essayer, mais c'est comme les autres associations, on n'a plus le temps, on n'arrive plus à faire du réseau, oui. C'est souvent, peut-être, mais bon, c'est déjà très très bien. Ben on va... Hein, allez, la dernière.
Je crois qu'elle est très courte, ma question, c'est qu'est-ce que c'est que l'association ici et ailleurs?
Alors là, ça n'a rien à voir avec
c'est
le débat.
C'est Apolline. La question est destinée à Apolline.
Alors ben justement, je vais répondre à cette question tout en concluant ce débat. Donc je vais tenter de faire ça en vous remerciant tous et toutes d'avoir été là cet après-midi, en remerciant Lucie, Hélène et Catherine d'avoir bien voulu quand même venir parler. Parce que c'était pas facile. En remerciant Chloé, en remerciant aussi la mairie de nous avoir donné accès à la salle. L'association Ici et Ailleurs, c'est un média local qui est né depuis un an et qui a deux sites internet. L'un qui est une web radio sur laquelle vous pourrez entendre ce débat qui sera certainement retransmis en podcast. Donc vous pourrez aller dessus, cliquer, l'écouter. Le site, c'est www.radiola.media et il y a des petits papiers dehors. Et on s'occupe aussi d'un site de postage d'infos locales qui s'appelle Ensemble Ici, où chaque personne peut aller poster ses événements, ses actions, toute association qui organise quelque chose. Et il y a une lettre d'info qui est envoyée tous les 15 jours à tout le monde. Voilà. Et ça, c'est sur toute la Drôme rurale. Voilà ce qu'est l'association Ici Ailleurs. Merci encore beaucoup et puis bonne fin de soirée.